Vous êtes toujours sur Radio Libertaire après cette belle journée de manifestation massive avec toutes les organisations côte à côte pour dire non à cette réforme des retraites. Nous sommes là comme tous les jeudis avec Sylvie Passem, l'émission antimilitariste de Radio Libertaire avec l'Union Pacifiste. Vous allez être avec Bernard Bessa qui nous a fait comme d'habitude une émission enregistrée avec pas mal d'intervenants. Ce soir, autour de l'écocide en Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les guerres et l'industrie d'armement, nous avons toujours des conséquences. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'écocide. Bonne émission. Et à la fin de l'émission, vous allez avoir d'autres informations, notamment avec probablement Jazz Lib qui sera là ce soir.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors en ce début d'année 2023, alors que la guerre russo-ukrainienne continue à provoquer des drames humains, les militants écologistes ukrainiens se préoccupent déjà des dégâts qu'il faudra réparer après le conflit. J'ai écouté à cette occasion, à la radio de nos amis de Radio Zinzine, une émission intéressante que je voudrais vous faire partager. L'émission, enregistrée à la fin de l'année 2022, a pour titre « Écocide en Ukraine ». Écocide en Ukraine. Alors je laisse l'animateur de Radio Zinzine vous présenter à la fois le sujet de cette émission, ainsi que l'entretien qu'il a eu avec Oreste Del Sol, activiste écologiste dans les Carpates.
Écocide en Ukraine, une émission de Radio Zinzine. C'est un entretien avec Oreste Del Sol, paysan et activiste écologiste vivant dans les Carpates en Ukraine. Oreste Del Sol vient de participer à une délégation ukrainienne qui s'est rendue à Bruxelles et à Paris du 28 novembre au 1er décembre. Elle a été constituée de militants écologistes. L'invasion russe de l'Ukraine n'a pas seulement créé de nouvelles menaces environnementales, elle a aussi considérablement aggravé des problèmes existants. Il est essentiel que la société civile ukrainienne joue un rôle majeur pour remettre les questions écologiques au cœur des débats politiques et diplomatiques en ce qui concerne l'Ukraine, et notamment en ce qui concerne les énormes programmes de reconstruction, Rebuild Ukraine, qui sont en train d'être mis en place. Oreste Del Sol fait partie du mouvement Free Sudovets. Ça fait 4 ans que ce mouvement se bat contre le projet de construire une énorme station de ski dans le massif de Sudovets, dans les Carpates, projet qui aurait des conséquences néfastes sur l'écosystème de ce magnifique massif. Écoutons Oreste Del Sol.
En Ukraine, en ce moment, tout le monde est occupé à essayer de régler la crise humanitaire qui nous touche par la guerre, par l'invasion des Russes et la catastrophe que ça implique. Mais on était avant la guerre quand même préoccupé par les questions environnementales et actif dans ces questions. Et maintenant, les mois ont passé, on est à 9 mois de cette invasion. Et c'est clair qu'on reste préoccupé par la question de l'environnement. On a aussi compris que des gens travaillent au plus haut niveau de l'État et au niveau international pour la reconstruction du pays. Et on s'est aussi dit il faudrait qu'on participe à cette reconstruction. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est impliquer dans la reconstruction une conditionnalité sur les normes environnementales, la défense de la nature, les parties vierges de la nature qui existent, la biodiversité. C'est suite à la lutte par rapport au changement climatique, ce qui nous concerne.
Tu peux peut-être présenter un tout petit peu qui est-ce qui a fait partie de cette délégation et comment vous avez réussi à vous mettre ensemble.
On est d'abord parti du mouvement Free Sudovets, qui est la défense de ce massif qui n'est pas loin de là où j'habite, dans les Carpates. Et à partir de là, dans ce massif, il y a les forêts. Donc, un des jeunes activistes, c'est Yegor Grinik, qui est aussi un expert, qui travaille de façon régulière sur la surveillance des coupes illégales dans les forêts ukrainiennes. Et c'est lui qui a proposé d'inviter la responsable de la plus grande ONG en Ukraine, ECODI, ou EcoAction, que donc on a appris à connaître pendant cette délégation, mais on est très content de toutes ces interventions et de se retrouver en pleine phase avec elle.
Qui s'appelle Natalia.
Voilà, elle s'appelle Natalia Gozak. Et donc, Yegor a aussi proposé une députée, parce que parmi les actions et les revendications que l'on porte depuis un moment, nous voudrions que le Parlement ukrainien vote la loi sur les réseaux Emeraude, qui est la même chose que Natura 2000, mais pour les pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Et donc, il a choisi la députée qui soutient cette loi au Parlement, avec pour l'instant pas assez de succès, parce qu'il y a des lobbies qui sont contre. Et donc, elle n'a pas réussi encore à la faire voter. Ça est passé plusieurs fois. Mais à la tribune, se sont exprimés différents députés en disant « Mais nous, on n'a pas assez abîmé nos rivières, on n'a pas besoin encore de ça. On le fera ça dans quelques années, quand on sera au même niveau que la France ou l'Allemagne. » Et donc, elle s'appelle Yulia Ovchinnikova. Elle est membre du comité pour l'écologie et des forêts. Et elle vient elle-même du Donbass. Elle était une déplacée après l'action des séparatistes dans le Donbass en 2014. Et aussi en tant qu'universitaire, elle s'est retrouvée dans la ville de Vinnytsia. Et elle a été élue juste après Zelensky au Parlement. Et donc elle a soutenu l'idée qu'il faut aussi apporter le soutien aux ONG, à la société civile en Ukraine sur les questions environnementales, sachant elles-mêmes qu'elles sont devenues assez faibles pendant cette période de guerre. Pourquoi ? D'abord parce que des activistes sont partis au front, se sont engagés très rapidement. D'autres sont très mobilisés pour la question humanitaire. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a eu plusieurs mesures du gouvernement qui ont raffaibli encore plus tout le mouvement écologique. C'est d'abord l'interdiction de rentrer dans les forêts. tout simplement, mais c'est aussi le registre où étaient inscrits sur Internet les études d'impact environnemental qui a été fermée. Donc on n'a plus accès aux informations. Mais il y a aussi tout simplement des gens qui, avant, étaient prêts à venir faire des manifestations, à protester silencieusement, sans violence, qui aujourd'hui n'osent même pas, par peur tout simplement d'être embarqués au front s'ils protestent. Donc voilà, ça fait pas mal de raisons qui fait que le mouvement écologique en Ukraine s'est raffaibli. Et grâce au Forum civique européen, on s'est dit, ben voilà, on fait cette délégation pour essayer de le renforcer, pour être présent sur la scène internationale et pour avoir les contacts suffisants qui nous permettent de pouvoir faire quelques actions en Ukraine.
Alors la délégation a eu des messages, on viendra, importants, et on va aussi expliquer un peu les différents rendez-vous, enfin en gros quoi. Mais quand même, je pense important d'abord, si tu peux un peu résumer les dégâts absolument considérables, énormes, causés par l'agression russe sur l'environnement, dans différents domaines.
Alors, il y a d'abord différents types de dégâts. Il y a des dégâts sur la qualité de l'air en premier, parce que les bombardements, ça pollue, c'est surtout quand ça a bombardé les lieux où il y a des réserves de produits de pétrole. Il y a des dégâts liés aux incendies. 200 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Il y a des dégâts liés aux mines. Les forêts, par exemple, c'est 700 000 hectares de forêts qui ont été déminées. Ça représente à peu près 10 ans de travail pour enlever ces mines, si on y arrive. Et la guerre n'est pas finie, il faut déjà le savoir. Il y a des pollutions dans tous les champs agricoles, avec aussi l'impossibilité des fois de récolter.
Je crois que tu dis tout, hein, mais je crois que c'est un tiers des, quelque chose comme ça, hein, des terres agricoles qui sont affectées.
Oui, un tiers, ça c'est les chiffres qui ont été estimés. Ensuite, on a un énorme problème, surtout depuis les dernières trois semaines, avec l'attaque de tous les centres d'infrastructures énergétiques. Et puis, voilà, le plus gros des problèmes au niveau de l'environnement, c'est la crainte sur les lieux de centrales atomiques, en commençant par Tchernobyl, qui a été occupé dès le début de la guerre par les tanks russes et qui ont soulevé des matières radioactives uniquement par le mouvement des troupes. Mais surtout, c'est Zaporoge, qui a été bombardé plusieurs fois et qui risque de faire une nouvelle catastrophe au niveau international. Il faut savoir que Zaporoge, c'est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Ça alimente 25% des besoins électriques du pays Ukraine. Et pour nous, environnementalistes, c'est clair que cette concentration est tout à fait néfaste par rapport à la stratégie de défense. Parce que si la guerre continue plusieurs années, c'est un peu ridicule de vouloir encore concentrer l'énergie sur un point qui est vulnérable. Et il est donc meilleur, et ça a été dit déjà avant la guerre, qu'il vaut mieux investir dans les autonomies énergétiques, ça veut dire les petites éoliennes, les petites panneaux solaires sur chaque toit, a beaucoup plus d'effet de résilience aussi par rapport à une situation comme la guerre.
Enfin, l'énergie beaucoup plus décentralisée en quelque sorte.
Ah ouais.
Après cette année de guerre, cette année de bâtiments.
Après cette année de guerre, cette année de bâtiments.
Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient.
Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vent de vent.
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant.
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant.
Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise. Les prisons.
Sous bon vent, sous bon contraire, guerre, guerre, vent de vent.
Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent.
Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent.
Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent.
Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vent de vent.
Thank you. grandir mes enfants.
Je suis là le gros de guerre, 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 vent de vent.
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant.
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant.
Je t'écrivais moins peut-être, je t'envoyais des rubans.
Je t'écrivais moins peut-être, guerre, guerre, vent de vent.
Mes amis, plus que la guerre, vous me verrez bien souvent.
Mes amis, plus que la guerre, vous me verrez bien souvent.
Après tant d'années de guerre, j'aurai tant et tant de temps.
Après tant d'années de guerre, 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 tant de temps.
L'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant.
De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant.
Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps.
Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre, vent avant.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu l'activiste écologiste Oreste Del Sol raconter dans l'émission Écocide en Ukraine les dégâts provoqués par la guerre, non seulement sur les populations, mais aussi sur les ressources qui manqueront certainement après le conflit. Et nous reprenons maintenant son récit enregistré par nos amis de Radio Zinzine.
Alors, ce que nous avons appris aussi pendant cette délégation, notamment de Yegor, mais pas que, donc l'expert un peu sur les forêts, c'est qu'il y a ces dégâts dont tu as parlé, certaines, enfin c'est énorme quoi, qui chiffrent en dizaines de milliards d'euros qu'il va falloir pour régler tout ça quoi, mais il y a aussi des dégâts loin du front, enfin dans les zones plus tranquilles, comment on peut expliquer ça?
Par exemple, pour les forêts, très rapidement, pour des questions économiques, quand un pays rentre en guerre, on a besoin d'argent pour alimenter l'effort de guerre, pour aussi payer les retraites, les salaires des enseignants, des soignants. Et donc, assez rapidement, le ministre de l'écologie a proposé, de couper 50% de plus que les années précédentes de forêts. Ça, c'est un exemple de... On sait très bien que quand il y a des problèmes économiques, on va puiser dans les ressources naturelles. Et là, en ce moment, avec cette crise humanitaire où énormément de gens se retrouvent déplacés, c'est clair que la priorité n'est pas de la défense des richesses environnementales, mais c'est plutôt son exploitation. Et ce qui nous préoccupe, c'est que tout ça se fait sans transparence. On n'a pas accès réellement à ce qui se fait. Et donc, c'est encore plus difficile qu'avant de défendre toutes ces richesses naturelles. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est 35% de la biodiversité de toute l'Europe. Donc, il y a des parcs nationaux énormes. On a commencé à autoriser, par exemple, de couper de la forêt dans les parcs nationaux. C'est des choses qui inquiètent énormément les écologistes.
D'ailleurs, ils ont expliqué qu'une vingtaine de parcs nationaux ont été occupés.
Oui, tout à fait. Il y avait des troupes et voilà, ça a été occupé.
Autre exemple des impacts indirects, on pourrait dire indirects, c'est dans le domaine agricole. Parce qu'il y a une perte de terres agricoles à l'est.
Il y a déjà toutes les parties qui ont été occupées. Ce sont parmi les meilleures terres autour de Kherson, de Zaporoge et en dessous de Zaporoge. C'était des très bonnes terres. Et donc, elles sont déjà par leur occupation, mais aussi après par les bombardements, l'artillerie, les missiles qui tombent. Ça fait énormément de surfaces qui sont touchées. Dès le début de l'invasion, on a quand même reconnu que beaucoup d'agriculteurs très courageux ont continué à semer, ont continué à récolter. Et donc, il y a eu aussi du céréal engrangé. Une partie de ce céréal est exportée, mais ça, vous le savez aussi dans la presse, parce qu'on en parle beaucoup, à travers les ports de Odessa. On voit d'ailleurs, dans notre région, nous sommes dans les Carpates, que les frontières sont pleines de ces camions qui essayent aussi de sortir les céréales par ces camions. On a donc des frontières avec une vingtaine de kilomètres de queue de poids lourd.
Alors, revenons un tout petit peu à la situation pour des activistes ou alors des associations, des organisations environnementales. Il y a des mesures très concrètes qui ont été prises par le gouvernement, par les autorités ukrainiennes, et qui posent problème dans différents domaines. Donc, par exemple, le registre d'information en général, c'est très compliqué. Tu peux expliquer un peu plus ça?
Et donc, il y a un registre qui est sur Internet, qui appartient au ministère de l'écologie, où quand on voulait faire un projet, ça peut être une station d'essence sur une autoroute ou construire quelle que soit une grande infrastructure, on doit demander quel impact cela a sur l'environnement, et des scientifiques travaillent pour déterminer, et s'il y a un grand impact, on essaye de le compenser, par exemple, avec des zones protégées. Et c'est un outil qui nous vient d'ailleurs de la législation européenne et qui a apporté un grand progrès les dernières années, parce que ça a quand même limité certains projets qui étaient tout à fait ridicules. Et par exemple, c'est dans le cadre de notre action contre Kolomoïsk qui veut faire cette énorme station de ski, c'est
dans les Carpates.
Dans les Carpates, c'est un moyen de l'empêcher, parce qu'on sait que l'étude, d'abord, pas tous les scientifiques seraient d'accord de dire qu'il n'y aurait pas d'impact. Il y a des énormes impacts sur la forêt, sur la faune, sur la flore, sur l'eau, évidemment. Et donc, grâce à cet outil technique, on pouvait empêcher un projet. On pouvait aussi, si l'étude d'impact était tronquée, parce que souvent les scientifiques sont très peu payés, donc avec peu d'argent, on aurait pu acheter tout ça, mais on sait qu'on peut aussi mettre en procès, etc. Et quand le début de la guerre a commencé, le gouvernement, prétextant que ça donnait des informations stratégiques sur certains lieux, a fermé ce registre. Donc c'est assez maintenant compliqué de protester contre un projet qui serait ridicule ou les impacts seraient importants.
Ou même de savoir qu'il y a des projets dans le tuyau.
Tout à fait, même de savoir que ce projet existe et qu'il apparaîtrait tout d'un coup. Donc voilà, c'est un des problèmes assez importants, mais aussi le fait que, par exemple, il a été interdit l'accès aux forêts, c'était aussi pour nous qui sommes assez concernés sur ces questions, où on a l'habitude d'aller dans les forêts pour contrôler les coupes de bois, pour contrôler les quantités, si ça correspond aux documents, etc. Si on n'a pas le droit d'aller, eh ben on ne peut pas faire ces contrôles, donc se fait à peu près n'importe quoi. Et c'est ça qu'on accuse le gouvernement d'être, à travers ces mesures, on comprend les mesures qui sont faites pour des questions stratégiques de guerre, mais là, sur ces questions, on pense que la nature devient une victime silencieuse de cette guerre. Elle ne peut pas se défendre, et nous, les écologistes, n'avons pas assez de moyens aussi pour la défendre.
Et pour préciser cette interdiction d'aller dans les forêts, là où tu habites, dans les Carpates, qui est quand même une des régions avec les plus belles forêts et les plus importantes forêts, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait du front, mais je veux dire, c'est très loin. Et n'empêche, aussi là, vous n'avez pas le droit de balader en forêt.
Oui, voilà. En plus, l'interdiction a été faite sous prétexte qu'il pourrait y avoir des incendies. L'interdiction a été faite au mois de mars, alors qu'il y avait encore un mètre de neige dans les forêts des Carpates. Donc, il y avait aussi ce côté ridicule. Il faut absolument reprendre les mesures pour la protection de l'environnement. C'est pour ça qu'on est venu à Bruxelles, c'est pour ça qu'on est venu à Paris. On a eu la chance d'avoir plusieurs rendez-vous assez officiels, parce qu'on est persuadé que si on laisse faire les choses comme elles sont maintenant, des intérêts économiques plus gros, avec des groupes, par exemple, d'oligarches ou des gens qui n'ont idée que leur intérêt personnel et non pas l'intérêt du pays, eh bien, vont profiter de ces lois pour s'accaparer des matières premières et détruire l'environnement dont on a tous besoin.
Par ici, c'est la nuit tout est permis, y compris qu'elle installe les draps de son lit sur le fond de ta mémoire, y compris que les oiseaux des hautes volières étouffent dans des sueurs de main meurtrière, qu'il les caresse un soir. Je rêve, je rêve. Par ici, c'est la nuit, tout est permis, y compris qu'on suffoque sans pousser un cri, en sombrant sur ses dalles. Ses ongles ovoïdes ramassent tes pleurs dans des flacons cristaux de diverses couleurs. Selon ton genre de mal, je rêve, mon rêve. Par ici, c'est la nuit tout est permis, tu roules à mon flanc comme la nullité de ma vie. Et ton rire se répète. Je regarde les forêts en frichant tes yeux. Veux-tu que je te dise où tu es bien courageux? Où tu as perdu ta tête? Je rêve. Assise en troupe ronde à l'oreille d'une gare, ton regard a pour m'aide pieds nus qui t'effarent, des haines envers au fond. Par ici, c'est la nuit tout est permis, dans la coupe de mes baisers tu mets des lits. Amer sans raison, je rêve. C'est la nuit tout est permis, quand mon enfant tout neuf a poussé un grand cri, parce qu'il était nouveau. Je l'ai posé à terre dans le fond d'un panier, j'ai refermé les anses jusqu'à l'étouffer. Ce qui est un grand cadeau, je rêve.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson d'Anne Christ intitulée « La nuit, tout est permis ». Et nous reprenons maintenant le récit d'Oreste Del Sol, activiste écologiste en Ukraine. Il nous a parlé des profiteurs de guerre qui prennent prétexte, bien sûr toujours des conflits, pour liquider les ressources du pays. Alors son témoignage a été enregistré dans l'émission Écocide en Ukraine, produite par Radio Zenzine.
Autre chapitre très important soulevé par la délégation, c'est que, bon, maintenant on parle énormément d'un programme qui s'appelle Rebuild Ukraine, donc reconstruction de l'Ukraine. Ça va être un énorme, c'est certainement le plus grand chantier de reconstruction depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Europe, en tout cas c'est immense. Il y en a qui, voilà, qui parlent de comment on va le faire. On aimerait que ce soit Rebuild Ukraine Better, donc meilleur, plus verte, plus écologique, etc. Et quelque part, c'est dans l'avenir. Mais en fait, déjà, l'architecture, les idées, les plans sont en train d'être réfléchis, mis en place maintenant.
Ben, déjà, dans cette idée, ça nous a assez rapidement inquiétés. C'est normal qu'on veuille reconstruire le pays suite à une guerre. Et on est très heureux qu'il y ait une mobilisation internationale pour aider l'Ukraine. Mais on est inquiet que ces mesures soient utilisées par quelques-uns, à l'inverse de l'intérêt du grand public. C'est pour des questions d'intérêt économique, de monopolisation des moyens, Alors, par exemple, quand on va reconstruire, il faudrait peut-être éviter de toujours utiliser le même béton, le même fer, qui va énormément utiliser d'énergie. Et on devrait réfléchir peut-être à réparer des choses plutôt qu'à de construire du neuf. Par exemple, là, dans le cas de la crise humanitaire, où des millions de gens ont dû fuir les lieux du front, certains ont imaginé qu'il fallait construire des HLM pour mettre des centaines de familles de réfugiés. Et on a tout de suite dit, mais ça va faire des ghettos et ça va faire des énormes problèmes avec les populations locales. Il vaut mieux intégrer les réfugiés dans les villages, dans les villes, chez les gens. Ça va permettre une harmonie plutôt que de se détester. Ah, vous venez de là-bas et c'est vous qui avez fait ça, etc. Donc il y a énormément de choses à revoir. Énormément. Il y a toute la question énergétique, comment redonner de l'énergie dans les régions qui vont être construites. Quelle énergie? Est-ce qu'on veut encore continuer avec des centrales atomiques? Apparemment, il y a déjà un plan pour le gouvernement de nouvelles 7 énergies nucléaires des stations centrales. C'est tout à fait inquiétant. Pour nous, c'est absurde parce que dans le pays où Tchernobyl a explosé, dans le pays où la guerre menace régulièrement par le bombardement une station, une centrale nucléaire, dans le pays où directement on vous dit ne vous battez pas parce que sinon c'est la guerre atomique, on veut continuer à utiliser des centrales atomiques. Ça paraît absurde. Il faut beaucoup mieux utiliser les programmes qui facilitent les énergies alternatives comme le vent, le soleil ou la biomasse, par exemple. Il y a des tas de choses encore à inventer. C'est ça l'idée de reconstruire, comme tu dis, better.
Donc, on a beaucoup évoqué pendant ces visites et ces rencontres les questions de conditionnalité écologique par rapport à ces plans de construction. Des maisons passives, par exemple, utiliser moins d'énergie, etc. Mais il y a un autre aspect que je pense important, et c'est la question de l'implication de la société civile en général sur la mise en place de ces plans et la volonté, quelle volonté a la population ukrainienne pour l'avenir, etc. Et avant d'évoquer cette question-là précise, je pense que c'est quand même bien de revenir sur le rôle de la société civile, en fait, depuis le février de cette année, dans différents domaines, le domaine humanitaire, le domaine, en fait, plein de domaines, que vraiment a joué un rôle absolument primordial en Ukraine.
Ben, si on parle de ça, il faudrait commencer pas en février, mais déjà au minimum en 2014, si ce n'est avant. Ça veut dire 2014, c'est d'abord une petite révolution, on appelle la révolution Maïdan, où les gens se retrouvent pour discuter, et ce sont des très jeunes personnes, des étudiants, qui à Maïdan ont protesté sur la place centrale contre le gouvernement de M. Yanukovych, qui préfère aller vers l'Europe. Parce que
Yanukovych, il veut aller vers Russie et voilà, les jeunes.
Donc la première des choses, c'est que la population, ça a commencé avec des étudiants, mais qui ont été frappés par la police de façon tout à fait injuste et sans aucun, il y avait aucune raison pour frapper des pacifistes de moins de 18 ans. Souvent, ça a mobilisé toute une frange de la population. Des millions de personnes sont allées sur cette place centrale pour dire non. On ne veut pas aller vers la Russie, on veut aller vers l'Europe. Et suite à ça, le président Yanukovych doit fuir. Il a fui avec ses sous, parce qu'il a aussi abattu une centaine de personnes sur cette place. Et un gouvernement provisoire se met en place. Et assez rapidement, la Russie occupe la Crimée. Et puis derrière, ça s'est fait sans heurte, heureusement. Mais assez rapidement après, il y a un conflit avec des séparatistes pro-russes qui se revendiquent indépendants dans le Donbass, et ça commence la guerre, en fait. À l'époque, personne ne voulait qu'on appelle ça une guerre, mais c'était déjà la guerre. C'est pour ça qu'on dit que la guerre a commencé en 2014 et non pas en février 22. À ce moment-là, il fallait comprendre que les institutions était très faible. Le président était parti, le gouvernement était parti, la police ne savait pas à qui répondre, les douanes ne savaient pas à qui répondre. Donc c'est vrai que c'était un moment très délicat, et c'est énormément de gens qui se sont mobilisés de façon volontaire, de façon très horizontale. C'était d'ailleurs dans les discussions à Maïdan, comment on doit s'organiser. Et dans ses idées, c'était réformer la justice, donner plus de droits à toutes les minorités, mais aussi qu'il y ait des discussions dans les communes, dans les régions, une décentralisation importante. Et en fait, tout ça a continué d'abord à travers la guerre. Des groupes de volontaires se sont immédiatement formés de façon spontanée, sans l'appui de l'État, pour défendre la partie du Donbass qui n'était pas encore tombée sous la main des séparatistes, qui était armée directement par la Russie. Et c'est ça qui a créé cette mobilisation importante. En fait, en février 22, le 24 février, ça a réveillé énormément de gens qui étaient allés au front dans ces bataillons de volontaires et qui ont dit tout de suite, on y va. Certains qui n'avaient pas été se sont mis dans la même situation. Et en fait, il y a un énorme élan qui s'est mis et qui a commencé à rejeter les soldats autour de... Ils n'ont pas pu, parce qu'en fait, les Russes avaient prévu de faire un plan d'occuper très rapidement la capitale, de faire tomber le gouvernement. Et effectivement, le pays serait tombé assez rapidement. Ben, voilà, ça n'a pas marché. Mais c'est grâce, je pense, à la préparation qui a eu lieu de certains militaires très bien formés et d'un élan de solidarité et de gens qui se sont engagés dès le premier jour. On a beaucoup d'amis qui se sont engagés dès le premier jour pour le front parce que voilà, ils s'étaient déjà inquiets avant, ils savaient que ça pouvait arriver et ils ont été et jusqu'à aujourd'hui avec un certain succès militaire qui même pour moi qui suis un anti-militariste et un pacifique convaincu fait porter quand même un certain respect pour cette capacité de résistance avec ce qu'on appelait la deuxième armée du monde. Alors cet élan horizontal, on le retrouve maintenant énormément dans toute la crise d'abord humanitaire et actuellement c'est une crise aussi énergétique où on voit des gens s'entraider énormément. Par exemple, dès le moment où les Russes ont occupé des énormes superficies du territoire, il a fallu évacuer les gens, les faire sortir des endroits bombardés, des gens de partout sont venus pour aller aider. On a vu des chauffeurs très courageux aller dans tout près des bombardements, reprendre les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les emmener dans des endroits plus sûrs, et toute une autre partie de gens qui s'occupaient de les nourrir, de les loger, de les réconforter avec des groupes de volontaires, par exemple de psychologues. Donc énormément de gens qui se sont organisés, ils n'ont pas attendu de la police par exemple ou les administrations, ils étaient incapables de faire ce travail parce qu'il fallait réagir très très vite et à travers les réseaux sociaux, les groupes dans Telegram, de savoir où il y avait les besoins, de tout de suite réagir aux appels. Et donc ça continue aujourd'hui, par exemple c'est une crise énergétique, on est maintenant privé d'électricité par les bombardements, eh bien il y a des gens qui montent un générateur où de tout le quartier peut venir brancher son téléphone, des endroits chauffés où tout le monde peut aller se chauffer. Voilà, ça continue, cette solidarité qui s'organise de façon complètement horizontale. Il y a des informations sur les réseaux Internet et on se dit où il faut aller et on s'échange les besoins. Si quelqu'un a besoin, on envoie le matériel ou bien les gens pour aider.
Je vous rappelle que nous sommes en train d'écouter un entretien avec Oreste Elsol, qui est paysan et activiste écologiste. Il vit dans les Carpates en Ukraine et il a fait partie d'une délégation qui vient de se rendre à Bruxelles et à Paris fin novembre, début décembre, pour une série de rencontres avec les députés européens et français et également des représentants de la Commission européenne et d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales environnementales. Tout ça, que je pense, le gouvernement, les autorités, et aussi les municipalités, hein, les autorités locales, ils ont bien conscience du fait que c'est beaucoup grâce à cet élan de la société civile que l'Ukraine a pu quelque part résister quand même, une résilience considérable. Et d'autant plus peut-être difficile à comprendre qu'il n'y a pas, semble-t-il, actuellement, une volonté forte, en tout cas, même pas vraiment une volonté, des autorités ukrainiennes de créer des structures qui permettent une implication de cette même société civile dans les réflexions, comment mettre en place tout le programme de reconstruction, un peu les réflexions sur l'avenir de l'Ukraine, quelque part. Donc certains disent qu'actuellement, on planifie l'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens, quoi.
Il faut dire un mot sur le président Zelensky, parce que c'est aussi, il est à la tête de l'État et il a une légitimité. La légitimité, elle vient du fait que, contrairement à ce que la plupart des gens ont pensé, au moment où il aurait pu tout à fait fuir et partir du pays, apparemment même les services secrets américains lui auraient proposé, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas la question. La question, c'est qu'il est resté et qu'il a dit « on résiste ». Donc, première chose, voilà un homme qui n'était pas dans la politique il y a encore quelques années et qui a fait une campagne en parlant le russe, par exemple. Il a fait une campagne aussi en parlant de paix, en disant « moi, je vais arriver à faire la paix avec le Donbass. Je vais discuter avec Poutine ». C'est là-dessus qu'il a fait sa campagne électorale. Et donc, beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus pro-ukrainiens avaient peur que Zelensky, s'achète... ils ne savaient pas, mais en tout cas, ils n'avaient pas une grande confiance. Moi de même, d'ailleurs. Mais c'est vrai, on le reconnaît, moi aussi, cette forme d'utiliser les médias et de parler, de s'adresser au peuple chaque jour, quotidiennement, il s'adresse en expliquant un peu la situation, lui donne, et le fait que surtout il n'ait pas fui, évidemment maintenant, avec certains succès militaires, c'est tout à fait profitable, avec aussi le fait que les alliés ça veut dire l'Europe, les États-Unis, mais aussi d'autres pays continuent à apporter leur soutien, on reconnaît qu'il y a besoin d'une figure. Donc il fait aussi partie de l'unification de la société ukrainienne. Je ne suis pas sûr que s'il n'avait pas été là, la société aurait réussi à trouver ou un autre leader ou arriver à tout faire de façon aussi bien. Et voilà, en fait, c'est une osmose entre ce président qui se démerde pas si mal, je dirais, et les gens qui sont très mobilisés, très énervés, parce que cette agression est tout à fait injuste, donc ils se sont mobilisés sur tous les fronts. Et un autre front à nous, qui est humanitaire, mais qui est aussi écologique, c'est un peu pareil, on se sent vraiment engagé, et de ne pas se laisser abattre, et c'est vrai, on met beaucoup d'énergie pour essayer de continuer à défendre nos causes. Après, politiquement, je sais qu'on nous demande souvent est-ce que ces groupes de volontaires pourraient, après la guerre étant devenus si importants, par exemple, on connaît des organisations qui ont sauvé des milliers de gens des bombes. C'est vrai que voilà, les gens sont reconnaissants et pourraient avoir, au niveau politique, une reconnaissance. Pourquoi pas ? On ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas ce qu'il va y avoir comme... lutte politique. Ce qui est clair pour l'instant, la priorité pour tous, c'est de se défendre, de faire reconnaître que c'est une injustice terrible qui attaque cette attaque. Et voilà, il n'y a pas des réponses à tout sur la suite.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare ti ha fatto chinare il mento. Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno e resteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti.
Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli per liberarvi di noi canaglie, di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. Lo conosciamo bene il vostro finto progresso, il vostro comandamento a mal consumo, come te stesso. E se voi lo avete osservato fino ad assolvere chi ci ha sparato, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti.
E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e crederemo ancora più forte.
Per quanto voi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Per quanto noi ci crediamo assolti, siamo per sempre coinvolti. Per quanto noi ci crediamo assolti, siamo per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto noi ci crediamo assolti, siamo per sempre coinvolti. Per quanto noi.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Oreste Del Sol, activiste écologiste en Ukraine, s'est interrogé sur ce qui se passerait après la guerre et notamment pour la reconstruction du pays. La mobilisation de la société civile qui a fait ses preuves pendant le conflit permettra-t-elle d'éviter les erreurs de la société capitaliste ? Alors dans l'émission Écocide en Ukraine, l'animateur de Radio Zenzine pose la question.
Est-ce que c'est juste de s'inquiéter actuellement sur un certain manque de d'ouverture ou de créer des possibilités pour dans les différentes conférences, parce qu'il y a quand même des structures qui il y avait la conférence de Lugano, il y avait apparemment deux ONG ukrainienne un peu d'environnement, d'ailleurs Ecoaction de Natalia Gozak a pu participer, mais ça reste très minime, semble-t-il, les possibilités pour la société civile de vraiment avoir un mot.
Il est évident qu'une des premières revendications que l'on porte, nous, c'est la transparence des programmes qui seraient mis en place. C'est aussi le fait qu'il vaut mieux les faire ensemble plutôt que de les critiquer après qu'ils aient été faits. Donc l'idée, c'est participons nous aussi au programme de reconstruction, faisons des propositions, où vont-elles être arbitrées, on n'en sait rien, mais au moins participons à l'élaboration, à nos propositions, des choses concrètes. Et c'est ça, en fait, que, alors par exemple, dans une de nos propositions qu'on ferait, c'est évidemment reconstruire, ça implique utiliser des terrains, en échange, on voudrait qu'on protège d'autres coins, par exemple de l'exploitation forestière ou tout simplement agrandir les parcs naturels. Ça nous paraît très important pour, suite à la catastrophe qu'on est en train de vivre au niveau écologique, c'est clair qu'on a besoin de protéger encore plus d'espace. Comme ça, pour la nature, pour la faune, il y aura quand même quelque chose qui va nous rester de notre écosystème.
Autre point qui a été soulevé, important, qu'on n'a pas vraiment complètement évoqué, c'est la question de l'écocide. C'était notamment Yulia, j'ai du mal à dire son nom.
Ovchinnikova, elle s'appelle Ovchinnikova.
Qui est députée donc dans le Parlement ukrainien et qui est dans la commission de l'environnement et qui travaille déjà beaucoup sur les questions de l'écocide. Et on était assez intéressés de savoir que ce concept qui est pas du tout présent, par exemple, dans la législation française et dans beaucoup de pays, en fait, est déjà un peu présent au niveau du code, je crois, code pénal en Ukraine. Et donc, c'est une des revendications de la délégation.
Oui, mais c'est surtout grâce à cette députée, Yulia Ovchinnikova, qui porte ce projet. Et on pense que ça vaut la peine de soutenir ça. Donc pour ça, il faut aussi répertorier toutes les atteintes à l'environnement faites par l'agression russe. Il faut des expertises irréprochables, ça veut dire aussi avec l'appui international. Il faut des juristes qui travaillent sur ces questions pour comment se défendre la nature. Hein. Comme on dit, nous, la nature est silencieuse, donc elle a besoin d'être défendue. Et effectivement, il y avait déjà un travail législatif qui avait été fait en Ukraine, donc essayer cette notion d'écocide, de la porter au niveau international. Et comme les catastrophes qui ont lieu actuellement en Ukraine avec cette guerre sont énormes, on pense que ça pourrait être un exemple à utiliser pour le droit international. Voilà. Je pense que ça vaut la peine d'essayer aussi pour que la Russie prenne compte aussi ça et peut-être aussi demander après des financements pour réparer cette nature qui appartient à tous. Ce n'est pas une nature qui appartient qu'à l'Ukraine. La nature appartient à l'humanité.
Donc peut-être on peut juste venir à quelques impressions, donc nous avons pu rencontrer à Bruxelles des députés européens, les députés qui sont le plus concernés par l'Ukraine. Nous avons aussi rencontré des représentants d'un groupe au sein de la Commission européenne qui est particulièrement responsable de tout ce qui se passe par rapport à l'Ukraine. On a vu des médias, il y avait une réception officielle à l'Assemblée nationale, donc par deux commissions très importantes, notamment la commission des affaires étrangères, mais aussi une commission du développement durable. Donc, en fait, beaucoup de rencontres diplomatiques, on pourrait dire, mais comment tu sens tout ça? Bien sûr, c'est un peu rapide, parce qu'il faut attendre pour savoir ce que ça donne vraiment, mais qu'est-ce que tu as comme sentiment pour le moment?
D'abord, à Bruxelles, par exemple, on a senti un énorme soutien, parce qu'on avait déjà travaillé avec toi sur ces rencontres il y a quelques années, et on a quand même senti une ouverture beaucoup plus grande encore. Et je dois dire, à chaque fois, on a aussi senti un véritable intérêt pour la cause du peuple ukrainien, mais aussi pour ce qu'on est venu apporter, ça veut dire un discours que peut-être on n'entend pas souvent sur les questions écologiques. Après, sur nous, on est venu avec des propositions d'impliquer une conditionnalité avant de donner l'argent pour la reconstruction. Il y avait aussi peut-être des confusions, parce qu'il y a déjà de l'argent de façon importante qui est donné par l'Union européenne. Ça représente par mois
1,5 milliard,
c'est des grosses sommes. Et par exemple, ils ont dit non, nous on ne veut pas même demander de conditionnalité parce qu'il y a ça. Il faut qu'on réfléchisse encore, mais peut-être que c'est bien qu'il n'y ait pas de conditionnalité, mais que dans un programme qu'on appelle Rebuild Ukraine, qui sera spécifique pour la reconstruction, voilà, c'est là où on veut plus être impliqué. On comprend que maintenant, dans l'urgence, l'Union européenne arrive à donner de l'argent. Personnellement, moi, je suis toujours un peu méfiant parce que quand il y a beaucoup d'argent, je sais qu'il y en a qui en profitent pour leurs intérêts personnels et ce n'est pas le but normalement. Mais c'est comme ça. Ce qui est clair, c'est qu'on a senti qu'il y a un énorme intérêt quand on a rencontré M. Galer, qui est député européen et qui va régulièrement en Ukraine. On sent qu'il est touché par la défense, de la résilience des Ukrainiens par rapport à cette agression. Et aussi, quand on a parlé des questions de boycott, il y avait une grande sensibilité sur les questions du gaz russe ou sur le charbon, le pétrole aussi. Après, en France, alors c'était assez impressionnant parce qu'on a eu la chance d'être invité à une audition publique, c'est une chose assez officielle, où tous les partis étaient représentés et qui ont pu aussi poser des questions. Bon, on a aussi senti des attitudes partisanes dans les questions, mais au fond, à part peut-être le Rassemblement national, on a eu vraiment l'impression que tout le spectre politique défendait notre cause, avait un intérêt pour ce qu'on disait. Et je pense que ça vaut la peine de continuer à creuser ces contacts au niveau diplomatique. Et ça a permis aussi d'aller rencontrer au ministère de Transition écologique. Ça a permis de faire le contact avec donc, l'exécutif sur ces questions et avec l'espoir qu'on peut creuser, par exemple, qu'il y ait une invitation du ministre de l'écologie ukrainien en France pour justement aussi favoriser le rapport entre le ministère d'écologie et les ONG ukrainiennes. Voilà, il y a eu des idées qui sont mises en place. Ça, c'est une première chose. Après, il y a eu plusieurs moments où on a rencontré la société civile, des ONG françaises, mais aussi des médias, beaucoup de médias. Donc là, on vient à peine de finir. On ne sait pas ce que ça va donner dans la presse, mais c'est clair qu'au moins, ça a permis de parler de cette situation, en particulier la question du nucléaire qui nous semble être pour les Français essentielle parce qu'apparemment Par exemple, là, j'ai donné une interview dans le journal télévisé de France Info à midi, et juste avant que je passe pour mon intervention, il y avait un lobbyiste de l'énergie nucléaire qui disait « Oui, là, il va y avoir des coupures d'énergie, donc il faut investir un peu plus là-dedans. » Alors que, par exemple, on dénonce que la France, ça a été trouvé par le Greenpeace, la France continue d'acheter de l'uranium aux Russes, alors que ça devrait être tout à fait boycotté. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que je pense que ce voyage va permettre quand même de... En tout cas, nous a renforcés, et ça va permettre, en tout cas, des nouveaux contacts qui, peut-être, vont avancer sur des choses encore meilleures.
En tout cas, j'ai aussi senti que, notamment Natalia Gozak, et donc de l'éco-action, et peut-être mais tous, en fait, il y a une fatigue, il y a quand même un épuisement. C'était déjà pas très, très costaud, j'allais dire le lobby environnemental, mais c'est pas très sympa, mais enfin toutes les ONG, toutes les organisations qui essayaient d'apporter vraiment cette question-là en Ukraine, c'était pas hyper puissante déjà avant, et maintenant avec les personnes parties au front, mais peut-être certains déjà morts, ou partis en exil, et ou alors beaucoup qui travaillent dans l'humanitaire, et c'est complètement normal, quelque part c'est important de les encourager, de les montrer un appui, et donc ça au moins je pense que c'est important.
Tout à fait, oui, et bah, je remercie le Forum Civique Européen qui a organisé tout ça, et qui a, je pense, ça a quand même redonné de l'espoir, parce que d'abord, par exemple, Yegor a pu sortir du pays, ça c'est une première chose, mais aussi pour tous les gens qui sont souvent dans la question du quotidien, c'est bien de sortir et de faire des contacts à ce niveau, pour voir justement comment établir une stratégie pour faire avancer les causes qui nous préoccupent.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne savent pas, c'est que Yegor, c'est un jeune homme, et c'est toujours interdit pour des hommes, sauf vraiment dérogation très très difficile à obtenir d'ailleurs, et ils ne peuvent pas sortir du pays.
Oui, c'est donc tous les hommes sont gardés en Ukraine, sauf si vous avez plus de 60 ans ou moins de 18 ans, au cas où il y a une nouvelle mobilisation, pouvoir les mobiliser.
Est-ce que tu vois autre chose que ce serait bien de rajouter ?
Moi, je pense que, en tout cas, pour l'action, nous, on essaie de réfléchir globalement sur les questions, mais on aime bien agir localement. Et nous, ça fait plusieurs années qu'on se bat pour défendre ce massif montagneux et qui est tout proche de notre ferme. Et donc, cette délégation, j'ai eu l'impression qu'elle va apporter une visibilité sur notre action qu'on n'arrivait pas à avoir maintenant. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y avait le tribunal en appel et que les activistes n'ont plus le droit de rentrer dans les tribunaux, les télévisions non plus. Et donc, pour moi, c'est important, cette délégation, de remettre à l'ordre du jour, au niveau des infos en Ukraine, que les activistes sont toujours présents et sont toujours capables de mobiliser et de parler de leurs préoccupations en dehors du pays. Ça, c'était pour moi une réussite de la délégation.
Oui, peut-être c'est quand même bien de dire que tu as cité M. Garler avant, qui est rapporteur sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, donc c'est un peu le plus important député au Parlement européen en ce qui concerne l'Ukraine. Il a déjà mis dans le dernier rapport que ce projet de station de ski absolument massif, avec 30 000 touristes par jour en haut de la montagne, où le sommet c'est à 1850 mètres, quelque chose comme ça, avec le réchauffement climatique, ça paraît complètement absurde. Mais en tout cas, il a déjà marqué que c'est un projet illégal. Et donc, il y a quand même une incompréhension, en fait, de pas mal de personnes comme lui par rapport à un tel projet.
Oui, j'espère qu'il voit aussi que les autorités, quand il les rencontre, je sais qu'il a rencontré le Premier ministre, qui lui a dit « oui, je suis d'accord avec vous ». Et le lendemain, à Kiev, il donne une conférence de presse et il dit « non, mais on va construire cette station de ski », alors que c'est complètement ridicule. Donc, il faut contrôler les autorités ukrainiennes, il faut travailler avec eux et les obliger à rendre transparents les décisions.
Thank you. erreurs sur la conduite à suivre. Est-ce qu'il vaut mieux attendre ou ne pas hésiter? Est-ce qu'il vaut mieux prétendre ou bien tout avouer? Conjurer ses frayeurs là où l'espoir délivre. Ne surtout pas faire d'erreurs sur la conduite à suivre. Est-ce qu'il vaut mieux se rendre ou bien combattre encore? Poser un geste tendre ou rester le plus fort? Dois-je écouter mon cœur et ses battements ivres? Si je ne veux pas faire d'erreur sur la conduite à suivre, est-ce qu'il vaut mieux en rire ou garder son sérieux? Est-ce que choisir le pire me ressembler au mieux? Quand quelquefois j'en pleure, je cherche dans les livres comment ne pas faire d'erreur sur la conduite à suivre. Faut-il faire des calculs, anticiper la suite, rester lorsque tout brûle ou bien prendre la fuite?
Après cette chanson de Lise Martin, La conduite à suivre, je tiens à remercier les amis de Radio Zinzine qui nous ont permis d'entendre l'activiste écologiste Oreste Del Sol, venu en Europe avec l'aide du Forum civique européen pour défendre les causes écologiques dans son pays en guerre. Nous souhaitons bien sûr que les députés français permettent de faire avancer les demandes d'Oreste Del Sol et que la France ne se contente pas d'envoyer des armes pour alimenter le conflit, mais au contraire aide à trouver les voies pour arrêter ce conflit, qui a déjà fait des milliers de victimes civiles et a provoqué la mort de milliers de jeunes soldats de part et d'autre. On a entendu parler de jeunes hommes russes et ukrainiens qui fuient leur pays pour ne pas être enrôlés dans cette sale guerre. Certains, d'après des reportages, se retrouvent même en Inde, à Gao, où ils avaient l'habitude de passer des vacances ensemble. À l'Union pacifiste, bien sûr, nous avons soutenu, comme toujours, les objecteurs, les insoumis et même les déserteurs, mais nous savons que ces désertions ne suffiront pas pour arrêter une guerre commencée il y a plusieurs années et qui risque de durer encore de nombreuses années. Il faut alors que les diplomates de plusieurs pays se mettent au travail pour faire cesser les hostilités et trouver les conditions qui seront recevables par l'Ukraine comme par la Russie. C'est le sujet d'un article publié dans Le Monde diplomatique de janvier 2023 sous le titre « Proposition pour une sortie de crise ». Cet article a été écrit par Tapik Kaninen, président de l'organisation Global Crisis Information Network à New York et ancien directeur de la planification politique au département des affaires politiques de l'ONU. Et également par Heikki Patomäki, professeur de politique mondiale à l'université d'Helsinki en Finlande. Ils écrivent au sujet du conflit russo-ukrainien. Les appels à la négociation d'un accord de paix en Ukraine se sont récemment multipliés, même aux États-Unis. Les termes possibles et réalistes d'un accord restent donc à élaborer. Tout accord de paix est un compromis qui ne s'accepte pas sans difficulté. Les conditions doivent être recevables à la fois, comme on le disait, par l'Ukraine et par la Russie. En d'autres termes, les deux pays devraient y voir plus de bénéfices que de pertes. Il faudrait également prendre en compte les leçons tirées de l'échec des accords de Minsk en 2015. Convaincre les victimes de l'invasion que des négociations de paix ont du sens ne se fera pas sans l'Occident, et sans les États-Unis en particulier. Pour les Ukrainiens, qui pourraient finir par exiger une victoire totale sur les envahisseurs, il faut prévoir certaines garanties. D'abord, que l'invasion russe ne soit pas récompensée. et ensuite que l'accord ne conduise pas à une déstabilisation du système international dans son ensemble. Pour ce qui est de la Russie, il faut reconnaître que ses intérêts et préoccupations en matière de sécurité sont légitimes, et que plusieurs de ses revendications passées et actuelles n'ont rien de déraisonnable. Si les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, ont rejeté les traités Russie-OTAN et Russie-États-Unis proposés par Moscou en décembre 2021, on peut soutenir que certains points auraient pu être négociés et approuvés, tandis que d'autres étaient difficiles à accepter ou encore étaient irrecevables. La négociation est toujours possible dès lors qu'il existe une volonté politique d'y procéder. Alors c'est ce qui manque d'ailleurs, c'est cette fameuse volonté politique pour l'instant, des deux côtés et même de la part de ceux qui soutiennent, disons, l'Ukraine. Au cours de l'année 2022, quelques propositions auraient pu proposer les premières pierres de la désescalade et des négociations de paix. En février, au début de l'invasion, un groupe d'anciens diplomates et de chercheurs a suggéré dans une lettre ouverte au Financial Times qu'il, entre guillemets, devrait être possible pour l'OTAN, en étroite collaboration avec l'Ukraine, de soumettre des propositions détaillées pour la négociation d'un nouveau traité avec la Russie, qui n'engendrerait aucune hostilité institutionnelle. Celui-ci couvrirait le retrait vérifiable des missiles à capacité nucléaire, des mesures militaires propres à établir la confiance, qui limiteraient les effectifs et leur déploiement, donc arrêter d'envoyer des armes, et un accord international sur les frontières russo-ukrainiennes contestées. Sous le titre ensuite, sous le sous-titre « Zone démilitarisée », donc Tapik Kaninen et Heikki Potamoki écrivent. Messieurs Oscar Arias, prix Nobel de la paix en 1987 et ancien président du Costa Rica, et Jonas Nathan Gratnoff, président du Global Security Institute, sont allés plus loin en proposant en juillet 2022 que l'OTAN commence à planifier le retrait de toutes les têtes nucléaires américaines d'Europe et de Turquie, en amont des négociations. Le retrait effectif aurait lieu une fois la Russie et l'Ukraine en accord sur les conditions de paix. Sans affaiblir l'OTAN, sur le plan militaire, une telle démarche aurait attiré l'attention de M. Vladimir Poutine et l'aurait peut-être conduit à négocier. Dans la littérature spécialisée, ce type de stratégie porte un nom, ça s'appelle l'altercasting. Il s'agit de persuader l'autre en le plaçant dans une position différente, créant ainsi un nouveau rapport qui le dispose à agir conformément à son rôle nouveau. C'est la méthode qu'avait adoptée Mikhail Gorbatchev avec Ronald Reagan au milieu des années 1980. Les concepts de zone démilitarisée et de territoire sous contrôle des Nations Unies, entre guillemets, ne doivent pas être négligés dans la perspective d'un accord de paix. Ce ne serait pas la première fois que l'Organisation des Nations Unies, ONU, assiste et administre des zones démilitarisées et des territoires sous tutelle dans le cadre de son action pour la paix. Bien souvent, la démilitarisation s'est traduite par l'établissement d'une zone neutre entre les parties d'un conflit violent. L'ONU a également géré directement des territoires entiers, au moins temporairement. C'était par exemple le cas de l'administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. La mission de l'ONU consistait à maintenir l'ordre et la sécurité, à répondre aux besoins de première nécessité, à assister la reconstruction d'infrastructures physiques, à administrer le territoire selon l'état de droit, à épauler l'élaboration d'une nouvelle constitution et à organiser des élections. Alors bien sûr que maintenant, après toute cette démonstration, il faut bien sûr avoir confiance en l'ONU. Et malheureusement, si ça s'est bien passé dans certains pays, mais ça s'est pas toujours bien passé dans d'autres pays, et on pense notamment, par exemple, au Liban, où les troupes des casques bleus y sont toujours, depuis des dizaines d'années, et on pense bien sûr à d'autres pays, malheureusement. Alors, voilà encore ce que disent donc ces deux auteurs dans Le Monde diplomatique de janvier 2023. Il faut envisager sérieusement l'option d'une démilitarisation des territoires contestés dans l'est de l'Ukraine, ainsi que leur placement temporaire sous l'autorité des Nations Unies. À la suite d'une période de diplomatie parallèle et de négociations, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait déclarer, ou les parties pourraient directement négocier, un cessez-le-feu contraignant, accompagné du déploiement d'une force de maintien de la paix et d'autres personnels onusiens. Les réunions de l'Ukraine occupées par l'armée russe seraient démilitarisées et temporairement gouvernées par l'ONU. Les limites de ces territoires seraient déterminées avec souplesse. Alors bien sûr, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaiterait. Maintenant, est-ce que ça va se réaliser? Ça c'est autre chose. Alors il continue, les territoires requérait une période de transition plus longue que pour le Timor oriental, par exemple, de l'ordre de 10 à 20 ans. En outre, leur étendue rendrait nécessaire une mobilisation importante de ressources et de personnel administratif. L'administration transitoire des Nations Unies dans l'est de l'Ukraine serait également chargée d'accompagner les négociations et d'aider à l'élaboration d'une base légale pour le statut de ces régions, d'organiser des élections régulières et un possible référendum. Bon, ben ça, c'est aussi l'idéal qu'on a vu, bien sûr, au Kosovo et qui n'a pas toujours bien fonctionné. Mais enfin, autant vaut-il tenter tout ce qu'on peut pour arrêter cette guerre. Et il continue. Le non-alignement militaire de l'Ukraine demeure un enjeu clé et doit être intégré aux négociations. En outre, dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, d'autres actions visant au renforcement de la confiance pourraient être envisagées, telles qu'une reprise d'une part des discussions entre la Russie et l'OTAN au sujet d'une réduction des risques militaires, nucléaires et autres, et d'autre part des discussions officielles autour du désarmement. Alors là, quand on entend le mot désarmement, nous, à l'Union pacifiste, bien sûr qu'on est d'accord. Mais ce n'est pas du tout, apparemment, ce qui est en train de se pratiquer actuellement. En décembre 2020, un groupe de 145 anciens généraux, personnalités politiques, diplomates et intellectuels américains, européens et russes, tous préoccupés par l'accroissement des risques accidents militaires, nucléaires et autres, avaient ainsi formulé des recommandations, restées lettre morte, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Alors, les auteurs donc, de cet article du Monde diplomatique, Tapik Taninmem et Eiki Patomaki, se posent alors la question: quel médiateur pourrait arriver à faire arrêter la guerre? Il en va de cette guerre comme des autres. Les belligérants ont besoin d'une assistance extérieure pour en venir aux premières ouvertures en vue de la paix. Les félicitateurs et médiateurs tiers devraient être principalement issus de pays considérés comme étrangers au conflit par les deux parties et pourraient compter des représentants d'institutions telles que la Cour internationale de justice ou la Cour permanente d'arbitrage, qu'on appelle CPA. Actuellement, les relations internationales sont traversées par une tendance qui n'est pas sans danger, celle de considérer la guerre en Ukraine uniquement en termes militaires et moralistes, comme un combat entre le bien et le mal. Alors ça, en effet, je pense qu'ils ont entièrement raison, c'est la façon dont est présenté ce conflit dans les pays occidentaux. Ensuite, ils écrivent « Les forces diplomatiques pour résoudre ce conflit se comptent sur les doigts de la main, si on peut dire, et n'attirent guère d'encouragement, bien au contraire. Nous sommes cependant convaincus que les propositions ci-dessus pour entamer les négociations pourraient contribuer à une désescalade et à donner sa chance à la paix. » Alors bien sûr, à la lecture de cet article, nous sommes tout à fait d'accord. Bon, c'est peut-être un rêve d'attendre cette paix et de faire confiance à l'ONU, qui n'a pas toujours réussi. Mais enfin, faute de mieux, faisons-lui confiance. Et pour terminer, nous allons écouter la fameuse chanson de Graham Allwright, « Désescalade », en espérant qu'elle ait lieu un peu partout. La 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 la
écouter la balade de la désescalade. Il n'est pas trop tard pour commencer. Plus toutes ces salades qui retardent la venue du jour de clarté. La 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 la. À la croisade de la désescalade, avis à tous ceux qui veulent monter pour sortir de la panade, des frites et des grillades, un peu moins chaque jour et c'est gagné. La la la. C'est la guerre des nerfs, tous les jours sur cette bonne vieille terre, sur les prairies de la Normandie, les vaches mâchent et les vaches chient, et dans les bistrots du vieux Paris, on en fait autant, avec esprit dans les yeux, le rouge et le jaune se mêlent en commente, les tout dernières nouvelles. La douce sérénade de la désescalade contre la fanfaronnade de l'absurdité, la désescalade. Pourquoi est-ce qu'on tarde? Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? La la la.
charme.